Bonjour à tous. Régulièrement sur Internet, vous pouvez voir des vidéos réalisées par l'association L214 qui dénonce les conditions atroces dans lesquelles des animaux sont parfois élevés ou abattus. Mais qu'est-ce que L214? Comment cette association est-elle née? Qui sont ses soutiens? Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Parmi ses donateurs, il y a une fondation américaine qui veut développer une viande in vitro produite sans animaux. Vous allez nous expliquer ça. Et puis nous recevrons Mathieu Martinière en duplex de Lyon. Bonjour également.
Bonjour.
Pour le site d'investigation régional Médiacité, vous avez-vous enquêté sur une nouvelle affaire qui pourrait embarrasser Interpol? Le seul candidat à la présidence de l'agence est en effet un policier en poste aux Émirats Arabes Unis qui est soupçonné d'avoir couvert des actes de torture contre deux ressortissants britanniques.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Bonjour, je suis Sophie Marceau. Il y a 40 ans déjà, la romancière Marguerite Yourcenar évoquait le supplice des poules pondeuses en cage. Ces poules qui pondent à la chaîne, le bec mutilé, pour qu'elles ne puissent blesser leurs voisines serrées contre elles. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là, au même point. Ces nouvelles images de L214 le montrent une fois de plus.
Voilà un extrait d'une vidéo de L214 qui montre les conditions déplorables dans lesquelles vivent des poules pondeuses en Bretagne. Alors des vidéos comme celle-ci, on en voit régulièrement, elles font des milliers, voire des millions de vues sur Internet, et elles sont très commentées sur les réseaux sociaux. Maintenant, si le nom de leur auteur, L214, nous est désormais familier, on ne sait pas forcément qui sont ses soutiens et quels sont les projets qu'ils défendent. C'est ce qu'on va donc voir avec vous, Maxime Fayol, mais on va commencer par le commencement. Au départ, L214, c'est une toute petite structure qui est basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, l'association est créée en 2008. À l'époque, c'est une toute petite équipe composée notamment de Brigitte Gauthier et de Sébastien Arsac. Il s'agit du couple clé de l'histoire de L214. Tous les deux se rencontrent à la fin de leurs années lycée à Clermont-Ferrand. Ils partagent des idées communes, notamment sur la défense des animaux, et ils vont créer une première structure qui s'appelle Stop Gavage. C'est comme ça que débute L214, explique Sébastien Arsac.
On a eu, on va dire, un parcours un peu militant. Brigitte, toi, t'as milité à la Croix-Rouge. Moi, j'ai milité dans des mouvements sociaux. Et on n'était pas forcément destinés à faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, mais c'est en se rendant compte du problème, parce qu'on parle là aujourd'hui de plus de 3 millions par jour en moyenne en France d'animaux qui sont envoyés à l'abattoir, et puis quand on voit aussi les conditions d'élevage, donc c'est 80%, hein, 8 animaux sur 10 sont dans des élevages intensifs. Donc pour nous, à un moment donné, c'est vrai que on a fait une démarche d'abord personnelle, de se poser la question de notre propre consommation de produits animaux. Et puis évidemment, on s'est vite rendu compte que c'est une question politique.
Alors, une question politique au sens où être végétarien, ils jugent que ça ne suffit pas. Eux, ils veulent faire bouger les choses, Maxime, et pour ça, ils vont d'abord s'attaquer à un produit emblématique.
Oui, un produit que vous allez peut-être consommer d'ici quelques semaines au moment des fêtes de Noël.
Moi, je ne sais pas si j'en consommerai, mais vous parlez du foie gras, évidemment.
Oui, exactement. Et les images obtenues dans 3 élevages du Sud-Ouest sont incroyables. On y voit des centaines d'oies en cage, prêtes à gaver. Certaines sont dans des états déplorables, d'autres sont même déjà mortes. Ces images provoquent à l'époque un retentissement, on est en 2008. C'est la première fois qu'elles sont ainsi captées par l'association à l'intérieur même d'une exploitation, puis diffusées sur Internet. Mais la méthode n'est pas sans risque, explique encore Sébastien Arsac.
Rentrer aujourd'hui dans un abattoir avec une caméra, par exemple, c'est vraiment mission impossible. Enfin, à chaque fois qu'on montre des images, que ce soit dans un abattoir, un élevage, c'est toujours qu'une infime partie, en fait, de ce qu'on pourrait montrer. C'est une petite parcelle de vérité, un voile qu'on a réussi à soulever grâce à des lanceurs d'alerte qui ont eu le courage, en fait, à un moment donné, de nous contacter et de prendre des risques pour collecter ces images. On sent très bien, d'ailleurs, que quand, à chaque fois qu'on montre des images, on a beaucoup de gens qui nous contactent, soit des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, soit des éleveurs, et on sent bien aussi une peur, en fait. Ils ont extrêmement peur de témoigner. Il y a vraiment une omerta, en fait, dans ce milieu-là. C'est hallucinant. Effectivement, c'est compliqué. Effectivement, faut prendre des risques. Mais ça vaut le coup.
Et je précise que certains membres de l'association ont déjà été poursuivis en justice, certains condamnés, notamment pour violation de la propriété privée.
Oui, parce que si je comprends bien, Maxime, c'est ce qu'on entend, ces images filmées à l'intérieur de propriété privée, on les obtient clandestinement.
Oui, et parfois par des salariés de ces abattoirs. J'ai d'ailleurs retrouvé l'un d'entre eux, il s'appelle Mauricio Garcia Pereira. Lui a commencé à travailler à l'abattoir de Limoges en 2010. Il est rapidement choqué par une pratique, le fait que l'on tue chaque jour des vaches qui sont prêtes à mettre bas.
Au début, moi, je ne posais pas trop de questions. Quand j'ai commencé à découvrir qu'on tuait des vaches gestantes tous les jours. On va vider la panse avec les voyous. J'avais toujours une poche rose qui tombait à côté. Mais c'est quoi cette poche-là? Parce que des fois, il était petit, des fois moyenne, et des fois, il était énorme, énorme. Aussi grande que la panse, quoi. C'est pas possible que ce soit des petits fœtus. Et oui, c'est un fœtus. Et là, c'est là que je me commençais à intéresser. Putain, c'est un fœtus. Et le lendemain, encore un fœtus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai commencé à poser des questions, surtout au service vétérinaire, si c'était légal. Il m'a dit oui, c'est légal. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Alors voilà, et ça, c'est pas une vache, c'est pas un veau. Mais et je pleure encore 4 ans après. Ma parole, c'est non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Je pleure encore 4 ans après, dit-il. Et c'est justement parce qu'il a été très choqué donc qu'il a contacté L214.
Effectivement, c'est après avoir vu un sujet au journal télévisé sur un scandale dans un autre abattoir que Mauricio se renseigne et appelle l'association.
Début 2016, j'étais à la maison, tranquille. Le 20h, je vois, voilà, un scandale dans un abattoir. J'étais sur Internet, L214. J'appelle, oui, vous êtes bien de L214? Je vous envoie une photo. Je ne vous dis pas qui je suis. Je vous dis que je travaille dans un abattoir, très important. Hein. Si vous êtes intéressé, vous me rappelez, je vous raconte tout. J'ai envoyé les deux photos, et dans la même pas une minute, mais c'est quoi ça? Sa première question, mais ça s'arrive en France? Vous êtes sûr que c'est la France? Toi, tu veux dénoncer ça? Oui, tout à fait. Alors, nous, pour être sûr, alors, est-ce que tu serais prêt à planquer des caméras? Et là, j'ai réfléchi, planquer des caméras? Moi, je ne peux pas. Mais par contre, je vais faire des films. Et voilà, et moi, j'ai fait c'est mon boulot, et la caméra, il filmait. Il y a 2-3 vidéos comme ça, je me suis dit, putain, on dirait Tarantino, là.
Ouais, Tarantino et son goût prononcé pour l'hémoglobine. Maintenant, il est vrai que ces vidéos font parfois autant de vues sur Internet qu'un film de cinéma.
Oui, entre 250 000 et 300 000 vues pour ces vidéos prises à Limoges, mais ça peut monter jusqu'à près de 2 millions de vues. C'est le cas d'une vidéo tournée dans l'abattoir bio du Vigan, dans le Gard. Des chiffres que L214 obtient grâce à une communication millimétrée. Le sujet choque tout particulièrement, il intéresse donc très vite les médias. Cela permet à l'association de conquérir de nouveaux adhérents, explique la cofondatrice Brigitte Gauthière.
Aujourd'hui, L214, on a 40 000 membres et une communauté aussi des sympathisants qui sont très très actifs, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous donnent effectivement une force pour pouvoir démarcher les entreprises, démarcher les politiques. Mais effectivement, si L214 est connu pour ces vidéos qui soulèvent des émotions, on a aussi avec à chaque fois un dossier argumenté, on apporte des solutions. Enfin, c'est la partie émergée de l'iceberg.
La partie émergée de l'iceberg et la partie immergée, alors Maxime, c'est quoi?
Eh bien, c'est tout un travail de fond avec des relais politiques, avec les entreprises de l'agroalimentaire pour changer ces conditions d'élevage. Mais ce pourquoi milite l'association au fond, c'est la fin de l'élevage. Elle défend une doctrine qu'on appelle l'antispécisme, qui est défendue par les véganes, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de produits animaux. Et il existe plusieurs types de sensibilité à ce sujet au sein de l'association. C'est ce que m'a expliqué Paul Ariès. Il est politologue spécialiste de l'histoire de l'alimentation.
Il y a deux types de végans. Il y a des végans qu'on appelle welfaristes, qui veulent améliorer ce qu'ils nomment le bien-être animal. Mais ce mouvement welfariste, il est très très minoritaire. Aujourd'hui, ce qui est dominant, pas seulement en France, à l'échelle mondiale, c'est le mouvement abolitionniste. Le mouvement antispéciste, c'est l'idée que l'espèce humaine privilégierait systématiquement ses propres intérêts au détriment des autres espèces. C'est-à-dire qu'il considère qu'il faut remettre en cause non seulement la hiérarchie entre les espèces, mais l'existence même, la conception même des espèces. Nous n'avons que des individus animaux. Et le critère qu'il donne, c'est la capacité à souffrir.
Ah oui, la capacité à souffrir. Donc selon qu'il souffre ou pas, un animal, hein, et on entend là que ça comprend l'homme, qui est un animal comme un autre après tout, bah, cet animal, il aurait plus ou moins de valeur.
Oui, et cette théorie, elle a été popularisée par un philosophe australien, le père de l'antispécisme dont L214 se revendique, c'est Peter Singer. On le voit d'ailleurs assez souvent sur les vidéos de l'association, dans certains débats par exemple, et il est venu préciser ce qu'était son concept sur France Culture en juin 2018.
Ce n'est pas une question d'espèce, c'est une question de capacité. Si, par exemple, vous avez le choix entre tuer un chimpanzé et un être humain avec un cerveau très endommagé, qu'il ne pourrait plus jamais être conscient ou qu'il ne pourrait plus jamais jouir de la vie, je ne pense pas qu'il faudrait préférer l'être humain. Je pense que l'être humain aura moins à perdre que le chimpanzé vivant.
Oui, donc si on suit ce raisonnement, un chimpanzé aurait plus de valeur qu'un humain plongé dans un coma profond.
Oui, alors attention, là on parle d'une philosophie, d'un principe plutôt que d'une politique à mettre en place, mais c'est effectivement la vision que défend L214.
Oui, L214 ne fait pas que défendre cette vision et diffuser des vidéos, comme on le disait. Maxime, elle milite aussi concrètement sur le terrain.
Oui, effectivement, l'association s'investit dans des actions politiques. Elle apporte par exemple son soutien au référendum d'initiative partagée sur les animaux qui a été lancé il y a quelques mois.
Et un référendum pour demander quoi ?
Alors l'idée, c'est de mettre au point une proposition de loi sur l'amélioration de la condition animale. Le référendum comporte plusieurs grands points que détaille le journaliste spécialiste des questions d'environnement, Hugo Clément, dans cette vidéo qui a été reprise par L214 sur sa page Facebook.
Dans cette proposition de loi, nous avons inscrit 6 mesures. Interdiction de la chasse à courre, interdiction des élevages à fourrure, interdiction de l'élevage en cage, mettre fin au spectacle avec des animaux sauvages, ne plus pratiquer l'expérimentation sur les animaux lorsqu'il existe une méthode de recherche alternative, et enfin, sortir de l'élevage intensif.
Alors je précise que ce référendum est soutenu par une centaine de parlementaires, une cinquantaine d'associations de défense des animaux, mais aussi par des membres de la galaxie des GAFA, les géants du numérique, parmi lesquels, en France, le patron de Free, Xavier Niel.
Et tant mieux, finalement, pour les défenseurs des animaux. Mais on va voir que leur présence, la présence de ces géants du numérique, n'est pas tout à fait anodine.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu qui est L214 et comment l'association fonctionne, Maxime Fayol, regardons de près qui sont ses soutiens.
Et pour le savoir, j'ai examiné les comptes 2019 de l'association qui viennent d'être publiés au journal officiel. Sur un budget de 5,5 millions d'euros l'an passé, on remarque que 87% proviennent des dons et des adhésions.
87% et les 13% qui restent ?
Alors, 5% des recettes sont issues de la boutique en ligne de l'association et des dommages et intérêts accordés par la justice. Mais ceux qui posent question, ce sont les 8% restants. Ils proviennent d'un don effectué par une fondation américaine.
Pourquoi ça pose question ? Qu'est-ce que c'est cette fondation ?
Alors elle s'appelle l'Open Philanthropy Project. C'est une fondation créée entre autres par l'un des cofondateurs de Facebook, Dustin Moskovitz. Pour vous donner une idée, c'est le 146e homme le plus riche du monde selon le classement effectué par Forbes cette année, avec une fortune personnelle estimée à plus de 9 milliards de dollars.
On est content pour lui, mais elle fait quoi cette fondation ?
Alors elle investit dans de nombreux domaines, comme la recherche scientifique, les universités, la santé, mais aussi, et c'est cela qui nous intéresse, la défense animale. Depuis 3 ans, elle a versé plus de 125 millions de dollars à plusieurs organismes qui œuvrent au bien-être animal, dont L214, qui a reçu en 2017 1 140 000 euros.
1 140 000, et comment elle a fait pour décrocher cet argent ?
Alors en fait, ce sont les Américains qui ont repéré L214 et pas l'inverse, relèvent Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, les deux cofondateurs de l'association.
On ne les connaissait pas en fait, c'est eux qui ont remarqué le travail qu'on faisait en France, qui est venu vers nous en disant « Écoutez, nous, on est une fondation, on finance des actions humanitaires, environnementales et de défense des animaux. Si vous avez des projets aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les soumettre et puis on verra pour voir ce qu'on peut vous financer. Et effectivement, on les a sollicités sur justement une campagne qui concerne les poulets de chair. Une campagne d'une part publique et une campagne à destination des entreprises, que ce soit les supermarchés, la restauration, les producteurs eux-mêmes. Et voilà, et ils ont accepté de financer effectivement en 2017.
Donc c'est un petit coup d'accélérateur, un coup de pouce pour l'association qui provient, voilà, encore une fois, d'une fondation qui finance par ailleurs des projets qui sont dans l'humanitaire, dans la défense animale. Enfin, c'est pas une industrie, en fait, qui a des intérêts privés à défendre.
C'est pas une industrie qui a des intérêts privés à défendre. C'est bien vrai, ça, Maxime ?
Alors, sur ce point, les avis divergent. Certains observateurs pensent que cet argent ne serait pas un simple don, mais plutôt une forme d'investissement de la part de l'Open Philanthropy Project. Car cette fondation a un double objectif, selon Gilles Luneau. Il est journaliste et il a enquêté sur cet organisme de philanthropie.
L'Open Philanthropy Project, il sert à deux choses. Il sert d'une part à soutenir un certain nombre de causes, des start-up travaillant sur la nourriture végane, on va dire, d'une part, tout ce qui est à base de protéines végétales, et puis aussi, il finance la recherche et le développement et la quasiment mise en industrie aujourd'hui de viande à partir de cultures de cellules souches. À leurs yeux, la filière d'avenir, c'est de changer la manière dont se nourrit le monde. Non plus seulement les véganes, parce que eux, avec leur burger végétal, ça leur suffit à la limite. Hein. Mais pourquoi ils veulent faire de la viande à partir de cellules souches et pourquoi ils veulent industrialiser au maximum? C'est parce qu'ils veulent s'emparer du marché mondial de l'alimentation, tout simplement.
Attendez, l'Open Philanthropy Project voudrait remplacer la viande d'élevage par de la viande sans animaux?
Oui, c'est l'idée, précipiter la fin de l'élevage, c'est-à-dire la fin de la viande telle qu'on la connaît. Plusieurs milliardaires sentent d'ailleurs que cette viande artificielle, c'est un filon d'avenir. Et ils financent des petites start-up qui travaillent à la création de viande sans animaux. Parmi eux, on retrouve notamment Bill Gates, le créateur de Microsoft, a investi plusieurs millions de dollars dans la viande in vitro. Et il a expliqué ceci il y a tout juste un an dans une interview accordée à l'entrepreneur américain David Rubenstein.
Les vaches, à elles seules, représentent 6% des émissions globales. Donc, on a besoin de changer.
Les vaches ?
Les vaches, oui.
How are we gonna do that?
Comment est-ce qu'on va faire ça ?
Eh bien, parmi tous les secteurs, celui qui s'est le plus développé par rapport à ce que j'imaginais il y a 5 ans est celui de la viande artificielle. On voit les sociétés comme Impossible Meat ou Beyond Meat. J'ai d'ailleurs investi dans les deux.
Et vous mangez leurs produits, vous aimez ça ?
Oui, absolument.
Ouais, enthousiaste Bill Gates, parce que si je résume, hein, Maxime, lui pense que cette nouvelle viande donc réglerait et le problème du réchauffement climatique et le problème de la souffrance animale, puisqu'on n'aurait plus besoin d'élever des animaux, donc de les tuer.
Oui, exactement, parce que vous avez entendu Gilles Luneau, on parle ici de viande fabriquée à base de cellules souches, une viande conçue directement en laboratoire. Et l'expert en alimentation, Paul Ariès, nous explique comment on peut y arriver.
On va prélever des cellules sous anesthésie et on va mettre en culture ces cellules, mais on va faire cela pour l'instant avec du sérum de fœtus de veau. L'objectif à moyen terme, c'est de remplacer ce sérum par un extrait de champignon. Donc la fausse viande cellulaire, elle suppose toujours au départ un donneur de cellules. Mais ensuite, un seul échantillon va permettre de produire jusqu'à 20 000 tonnes de viande. Ce qui fait que la start-up Mozami, donc des principaux acteurs dans ce domaine-là, nous dit que 150 vaches à l'échelle mondiale seraient suffisants pour satisfaire la demande actuelle de viande.
Ah oui, 150 vaches, autrement dit, un seul champ suffirait à nourrir le monde entier. Bon, mais il y a vraiment un marché pour cette vraie fausse viande?
Alors en tout cas, les entreprises qui investissent dans cette viande in vitro le pensent. C'est pourquoi elles mettent sur pied des stratégies à long terme. Écoutez Jocelyne Porcher, elle est sociologue et directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Pour elle, c'est exactement pour cette raison que des associations de défense des animaux comme L214 sont approchées par des fondations philanthropiques.
ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette demande est construite. Et donc, pour construire la demande, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe dans, entre guillemets, l'élevage industriel. À leur idée, les consommateurs ne sont pas assez motivés pour l'agriculture cellulaire parce qu'ils ne savent pas comment sont élevés les animaux. Voilà. Donc, il faut leur montrer des images pourries d'un côté, dire regardez comme c'est affreux l'élevage, c'est la violence envers les animaux et c'est la mort des animaux et c'est l'abattoir, voilà. Donc voilà, multiplier les images que fait le 214, abrutir les gens sur les réseaux sociaux avec des images en boucle, ça participe à construire la demande et à placer les citoyens et les consommateurs devant deux prémices d'alternative. Une l'alternative, elle est faite de ou les systèmes industriels ou l'agriculture cellulaire. Et donc voilà, ça réconcilie les amateurs de viande et les amis des animaux.
Donc elle pense qu'on nous propose une vision binaire en fait, hein, ou un élevage épouvantable quelque part, ou un monde sans élevage, mais où on pourrait continuer à manger de la viande, la fausse vraie viande donc. Et L214, elle en dit quoi de cette vision des choses ?
Eh bien l'association affirme qu'elle n'a pas de position bien arrêtée sur la question, mais sur le fond, Sébastien Arsac pose un regard plutôt bienveillant sur cette évolution.
On fait pas la promotion de la viande cultivée, absolument pas. On a aucune campagne dirigée vers ce truc-là. Mais quand on défend les animaux et qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur des alternatives qui permettent d'éviter d'envoyer des milliards d'animaux à l'abattoir chaque année en développant en laboratoire de la viande cultivée, je comprends que des associations de défense animale puissent regarder cette alternative d'un bon œil et puissent avoir envie de pousser. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter de manger de la viande, par exemple, la viande de culture peut être une solution.
Ouais, donc d'un côté, on ne roule pas pour les industriels, hein, c'est ce qu'on entend, mais d'un autre, on n'est pas contre non plus la viande in vitro.
Oui, c'est leur position et certains leur reprochent d'ailleurs ce côté de ne pas prendre parti. Le politologue Paul Ariès, par exemple, estime que si L214 ne promeut pas directement cette nouvelle industrie, elle la cautionne tout de même.
Il y a quelques années, je disais que les végans étaient les idiots utiles des biotechnologies. Idiot utile, c'était une formule plutôt gentille. Puisque l'idiot utile, c'est celui qui se fait avoir. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement des idiots utiles, il y a des chevaux de Troie. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mouvements, d'organisations véganes, de grands intellectuels, végans, antispécistes, qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils savent très bien qu'ils préparent la venue de l'agriculture cellulaire.
Voilà, ça c'est pour l'analyse de Paul Ariès. Chacun se fera son idée hein, pour savoir si c'est un progrès ou une menace. Maintenant, cette nouvelle viande in vitro qu'on nous annonce, Maxime, on va la voir arriver quand dans nos assiettes ?
Alors pour la trouver dans nos supermarchés, il faudra encore attendre un petit peu. En revanche, dans les laboratoires, ça va déjà très vite. Les premiers steaks sont fabriqués, mais ils coûtent encore une dizaine d'euros pièce. Il faut donc faire baisser ce coût de production, ce qui devrait être rapidement fait. Selon Jocelyne Porcher, ces steaks pourraient arriver sur le marché d'ici 3 à 5 ans.
Je pense que le premier diffuseur de la viande in vitro, ça sera les McDonald's, enfin, ça sera les vendeurs de hamburgers. Voilà, je pense que là, au début, ça sera bien chic, bon genre d'aller manger de la viande in vitro. Et puis après, on l'aura dans les hamburgers, dans les plats préparés. Et puis après, on l'aura dans les barquettes. Au supermarché, et ça aura la même tête que ce qu'on achète actuellement, issu des systèmes industriels. C'est très angoissant.
Voilà, angoissant pour certains, formidable pour d'autres. Bon, vous l'avez compris, notre propos ici n'est pas de prendre parti, mais juste de comprendre qui est qui, quels sont les enjeux alimentaires, environnementaux, financiers, qui se cachent derrière une lutte, par ailleurs légitime et nécessaire, contre toute souffrance animale.
Oui, la part des choses est d'autant plus difficile à faire que lorsqu'on touche au vivant, le sujet devient souvent clivant et passionnel. Merci donc Maxime Fayol, en tout cas, de nous avoir éclairé. Alors, je précise que votre enquête, on peut la retrouver, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. À suivre dans Secret d'Info. Et si un policier soupçonné de couvrir des actes de torture décrochait la présidence d'Interpol, on en parle avec notre invité.
One, two, three. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Brush the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I walk down the street I used to wander. Yeah, scratch my head and lit my cigarette. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?
Trois accords, un jeu de picking, deux voix harmonieuses et entêtantes, ça vous égaye le week-end et finalement ça fait du bien en ce moment. C'était How Lucky, chanté par les deux Américains, Kurt Vile et John Prine.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Mathieu Martinière, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'investigation en région et en ligne Médiacité, vous avez publié cette semaine une enquête sur Interpol, une enquête dans laquelle vous annoncez, vous révélez qu'un haut responsable de la police des Émirats Arabes Unis, qui est soupçonné d'avoir couvert des actes de torture, est aujourd'hui le seul candidat à la présidence d'Interpol. Alors quelques mots peut-être d'abord sur le profil de cet homme. Il s'appelle Ahmed Nasser Al-Raissi, il est inspecteur général de la police aux Émirats Arabes Unis. Alors ça correspond à quoi comme fonction aux Émirats ?
Alors c'est une fonction qui est juste en dessous du ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis. Il aurait en fait comme responsabilité la possibilité de mener des enquêtes internes et là, sous son autorité, l'organisation des services de police et de sécurité aux Émirats Arabes Unis.
Ouais, donc c'est un haut responsable de la police, on dira, aux Émirats. Il siège également au comité exécutif d'Interpol depuis 2 ans, hein.
Alors oui, il a été élu il y a 2 ans au comité exécutif d'Interpol. Le comité exécutif, il faut savoir qu'il y a 13 membres, donc c'est 13 hauts policiers du monde entier, qui se réunissent 3 fois par an et qui ils prennent des décisions d'orientation générale de cette agence mondiale de police.
Alors, il faut savoir qu'il y a des liens assez forts d'ailleurs entre les Émirats et Interpol, hein, puisque en 2016, Abu Dhabi avait fait un don de 50 millions d'euros à la fondation d'Interpol.
C'est ça, donc ouais, en 2016, 50 millions, donc faut savoir qu'en fait Interpol a un budget de fonctionnement très faible, c'est à peu près 140 millions d'euros là en 2019, donc 50 millions d'euros sur 5 ans, ça fait 10 millions par an, avec ce don, ils sont devenus le deuxième contributeur de l'organisation derrière les États-Unis.
Ouais. Et c'est ce qui explique aussi que ce soit un des hauts dignitaires donc de la police des Émirats qui postule à cette présidence d'Interpol, dont le siège, on le rappelle, aussi est à Lyon. Sauf que fin septembre, un caillou dans la chaussure d'Interpol, un avocat londonien, va écrire aux membres de l'agence et va les alerter en leur disant il faut qu'ils soient irréprochables, et c'est pas un hasard s'il dit ça.
Non, alors cet avocat londonien, c'est l'avocat de deux citoyens anglais, dont l'un est universitaire, c'est un doctorant à l'université de Durham, il s'appelle Matthew Hedges, il a 33 ans, et en fait en 2018, il a été arrêté à l'aéroport de Dubaï par les services de la sécurité intérieure des Émirats, et en fait il était accusé d'espionnage, d'appartenir au MI6, donc le fameux service extérieur du Royaume-Uni. Et en fait, il a été emprisonné plusieurs mois aux Émirats Arabes Unis. Il dit avoir été victime de torture psychologique. Et en fait, suite à cet incident, il a été jugé au mois de novembre 2018. Il a été condamné à vie pour espionnage par le tribunal d'Abu Dhabi. Et en fait, il y a eu un clash. C'était devenu une affaire diplomatique entre le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis. Et suite à cette affaire diplomatique, en fait, quelques jours après la décision du tribunal d'Abu Dhabi, il a finalement été gracié par le prince des Émirats Arabes Unis.
Alors, on a parlé de Matthew Hedges. Parlons de la deuxième personne qui dit avoir été également torturée. Il s'agit d'Ali Issa Ahmad. Lui, c'est un jeune supporter de football.
C'est ça, c'est un jeune citoyen anglais, supporter de football, qui, lors d'un séjour aux Émirats Arabes Unis, à la sortie d'un match de foot, portait un maillot du Qatar. Et il dit en fait avoir été arrêté par des agents du département criminel de la police d'Abu Dhabi et avoir été tabassé. Bon, il faut savoir aussi, il faut avoir le contexte diplomatique, donc il y a une
rivalité.
Voilà, une rivalité entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et il y a même des lois qui existent aux Émirats Arabes Unis qui condamnent des personnes qui feraient acte de sympathie, que ça soit sur les réseaux sociaux ou par toute forme de communication, à l'égard du Qatar.
Alors Ahmad Nasser Al-Raissi, le candidat donc, qui postule à la présidence d'Interpol, lui, est-ce qu'il est directement impliqué dans ces faits ?
Alors, il n'est pas directement impliqué dans ces faits, mais comme le dit Matthew Hedges, notamment, que j'ai interviewé pour Mediacité, il est le chef des autorités de police aux Émirats Arabes Unis en tant qu'inspecteur général. Lui-même a été une figure éminente de la police d'Abu Dhabi, puisqu'il a été le directeur des opérations centrales de 2005 à 2015 au sein des commissariats d'Abu Dhabi. Donc il a un rôle prédominant au sein de la police et puis il rencontre directement au ministre de l'Intérieur. L'affaire de Matthew Hedges a été vraiment médiatisée dans la presse britannique. Il ne pouvait ne pas être au courant de cette affaire et en fait aucune enquête interne a été menée aux Émirats sur ces allégations de torture. C'est un peu la question d'ailleurs que se pose Matthew Hedges. Il dit mais si on élit un général émirati, policier éminent de son pays, à la tête de l'Agence mondiale de police, quel symbole on donne à la communauté mondiale alors que les Émirats Arabes Unis, comme on l'a dit précédemment, sont accusés de torture à l'intérieur et à l'extérieur du pays et ne respectent pas les droits de l'homme.
Alors pour savoir ce qu'il adviendra de la suite, vous avez écrit aux polices suisses, allemandes et autrichiennes pour leur demander ce qu'elles pensaient de cette candidature. Vous avez eu des réponses, mais des réponses assez tièdes.
En fait, on les sent gênés un petit peu aux entournures. Parce que les polices européennes sont notamment des polices qui ont des chartes d'éthique. Il faut savoir que l'article 2 de la Constitution d'Interpol dit de respecter la charte universelle des droits de l'homme. Et quand on a obtenu ces réponses auprès de ces polices européennes, elles nous disent d'un côté qu'elles ne peuvent pas communiquer sur leur vote pour la présidence d'Interpol. Mais de l'autre côté, elles disent qu'il faut absolument respecter les droits de l'homme dans le cadre d'enquêtes policières. Donc si on lit un peu entre les lignes, on sent qu'elles ne sont pas forcément très favorables à la candidature.
Enfin, ce qui apparaît clairement quand même, c'est que c'est un sujet, un, qui embarrasse, et que deux, Interpol n'est pas qu'un outil de police, c'est aussi un outil très politique.
C'est ça, Interpol, en fait, on a souvent un mythe autour de cette organisation policière, même on a un peu souvent le mythe qui est véhiculé par Hollywood avec l'agent de police qui va parcourir le monde, le pistolet à la main, alors que c'est pas du tout ça, c'est surtout des agents de bureau, c'est une organisation internationale. Donc élire un président ou un secrétaire général, ça a quand même du poids au niveau international, comme peut avoir le secrétaire général d'autres organisations internationales.
Mais d'où la question, est-ce qu'il a une chance d'être élu, finalement ?
Ça, c'est la question, parce qu'en fait, c'est le seul candidat aujourd'hui officiel, public, reconnu, qui s'est déclaré pour cette élection. Il faut savoir que c'est une élection qui est peu transparente. Ils ont probablement reçu des candidatures en interne, mais j'ai posé la question à Interpol, ils ne m'ont communiqué aucun nom. Il y a de plus en plus de conférences qui sont organisées aux Émirats arabes unis, donc on se rend compte que c'est un petit pays, mais qui a une influence considérable. Donc on peut légitimement se dire qu'ils ont pu placer leur pion.
Il serait difficile de lui infliger un camouflet. Très bien, ben merci de toutes ces explications Mathieu Martinière. Alors je précise que votre enquête, donc on peut la lire, on peut la retrouver sur le site d'investigation en région Médiacité, un site, je le précise, qui est consultable sur abonnement. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique, il y avait Guillaume Roux. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Après le flash, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Kerrad et sa librairie francophone.